C'est bon, Maxime, tu as le nez
Oh non,
dégagé?
non, toujours
Moi,
pas.
je dis plus rien parce qu'on m'engueule.
Bah ouais, on m'engueule parce que je suis malade, on m'engueule parce que j'ai pas de micro.
Vous ne m'attendez à rien et je suis quand même déçue.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. D'abord, merci pour l'accueil que vous faites à cette saison 9, puisqu'à la réception des classements Apple, on est toujours plutôt bien placé dans la catégorie TV, donc merci. Par contre, dans la catégorie humour, on n'est pas dedans. N'est-ce pas, Maxime? Bonjour.
Salut.
À qui n'en parlons pas, hein, même si son rire est, semble-t-il, antidépresseur.
Arrête. Non, mais c'est pas notre faute si toi, t'es pas drôle, Tom. Hein. Voilà. Hein.
Nos blagues sont appréciées.
Je ne dirai rien. Mélanie, qui aimerait rire, mais vous ne la faites pas rire.
Bonjour.
Et Stéphane, l'homme qui rit avant les blagues.
Ouais, pardon.
Alors pour cette émission, on voulait parler nouvelle saison, mais on a des choses à dire sur des séries qui vont sûrement disparaître des radars d'ici peu. Alors on commence avec celle qui a fait un peu l'actualité, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, c'est She-Hulk sur Disney+, qui vient de terminer sa première saison, peut-être unique saison, on ne sait pas. Stéphane ?
Que veux-tu savoir ? Veux-tu que je te pitche la série ou je vais directement
non,
dans le vif ?
Non, She-Hulk, je pense que ça parle de... Enfin, le titre parle de lui-même. Mais...
Oui, c'est vrai. Bon, Tatiana Maslany, ben, elle n'est pas belle en vert dégueulasse, voilà. Mais Tatiana Maslany est juste exceptionnelle dans la série. D'ailleurs, c'est le gros point positif de She-Hulk, c'est Tatiana, quoi. Il faut juste la regarder pour ça. Le quatrième mur, c'est très mal fait, mais c'est un côté intéressant. Et malgré tout, dans le final, eh ben, en fait, j'ai pas compris où je...
T'as pas aimé le final ?
Ben, en fait, j'arrive pas à te dire si j'ai pas aimé ou pas ce côté très très méta qui casse le quatrième mur et puis qui va même rentrer. Mais en fait, je sais pas ce que ça veut dire pour la suite, quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est canon, là, ce qu'ils viennent de faire et que Kevin, eh ben, tous les films, c'est un truc complètement pensé, dont on peut se foutre. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Donc, voilà, quoi.
Moi, je pense qu'il faut prendre la série comme un gros kiff que se sont fait les scénaristes. Avec un humour vraiment ultra méta et limite, j'aimerais bien qu'ils ne la prennent pas en compte pour l'ensemble du MCU et que ce soit vraiment.
Ah là, c'est pas possible. Hein.
Non mais je suis outre d'accord, ça, mais... même si dans l'histoire on peut prendre quelques ingrédients, moi je suis plutôt d'accord avec Maxime. C'est plutôt dans l'univers du MCU. Donc du coup c'est un peu ordonnant parce que c'est genre juste un stand-alone si on veut, et c'est pourquoi ce serait dérangeant en fait. J'ai le droit de regarder She-Hulk sans jamais avoir regardé toutes les autres séries Marvel ou les films Marvel.
Oui, dans ce sens-là ça fonctionne, mais pas dans l'autre.
Ben oui, c'est ça.
Oui, mais dans l'autre, vous pouvez le prendre comme ça aussi, en fait, juste avec des petits clins d'œil, et ça fait plaisir parce que vous les connaissez, mais en fait, c'est toujours aussi plaisant, même si on les connaît pas.
Voilà, je pense que le 7 et le 8 m'avaient un peu réconcilié avec ce que je regardais, avec le moment où elle se fait ghoster, et le moment où elle rencontre le mec et tout ça, machin. Bon, tout ça, c'était très bien, c'était drôle, c'était même émouvant, je me suis reconnu dans ce que vivait Jen Walters, donc c'était très bien. Mais le dernier m'a sorti carrément de la saison. Et puis en plus, on te coupe à un moment donné de la scène d'action pour te dire mais en fait, vous attendez une scène d'action. Et bien en fait, vous n'en aurez pas parce que nous, on fait pas ce qu'on vous attend.
Mais,
enfin,
mais créativement, c'est quand même osé, non? Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, c'est la première fois que je vois ça, en tout cas.
Ouais, je sais pas.
Ça change.
Mais
bien.
Si, alors, je sais
oui,
pas. Bah,
non, mais ça changeait déjà dans le ton avant. Donc c'était très bien. C'était une rupture complète avec ce qu'on pouvait voir de UMCU et tout. Voilà. Mais alors, ça, c'était encore plus. Ils sont allés encore plus loin. Et pour moi, ça m'a sorti du bordel.
Mais pour moi, c'est pas du tout une rupture complète du MCU, c'est juste ils ont pris tout l'aspect méta depuis WandaVision et ils l'ont porté à son paroxysme. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça la série. Après, tout ce qui est méta, j'ai trouvé que c'était très réussi parce que vraiment, ils l'avaient bien tourné. Après, l'intrigue en elle-même de la série et bon, la réalisation est pas toujours toujours au rendez-vous.
Et surtout les effets spéciaux.
Ouais, les effets spéciaux c'était chou.
On peut dire quand même que le produit final c'est pas le pire qu'ils aient fait. Comme toi Stéphane, le 7 et le 8 m'ont pas mal plu, j'ai trouvé que c'était bien tourné, bien écrit, j'en garderai pas un grand souvenir parce que justement beaucoup de défauts et ça s'inscrit aussi dans un univers où on est amené à ne pas garder énormément de souvenirs de tout. Et parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir.
Ah oui, j'ai oublié, en fait, le 7 et le 8, il y a aussi le passage de Daredevil aussi. Voilà. Oui.
Bah ça, c'était bien, non?
Oui, c'était bien, au contraire. Pour le coup, j'arrivais pas à me piffer de Daredevil, et là, ça va, quoi.
Oui, même pour moi, c'est juste le modèle en fait du MCU qui fait qu'on n'en gardera pas un grand souvenir. C'est pas de la faute de la série en elle-même, et encore moins de Tatiana Maslany, parce que en effet, elle porte la série et elle le fait très bien.
Ah bah, c'est le point fort de la série.
Ouais.
Mais en fait, franchement, je trouve que ça a été un divertissement plus que c'était quoi l'autre, la dernière série Marvel en date.
Moonlight.
Oui, bah, alors, oui, clairement. Pardon. J'ai tellement pas aimé que. Oui,
oh là là.
Je suis sortie de ma dépression dès qu'elle a rigolé.
Stop. Oui, donc du coup, j'ai largement préféré She-Hulk, qui était. Voilà, les 30 minutes, je les voyais pas passer, contrairement à Moon Knight, où je voyais chaque minute passer. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée avant la fin, d'ailleurs.
Mais est-ce que la fin n'annihile pas, justement, toute la saison?
Bah, pourquoi?
Parce que c'est cohérent avec tout le reste de la saison.
Non, clairement pas, mais au final, ils en auraient rien à foutre.
C'est pas une fin un peu sortie du chapeau et...
Ah, ça, oui. Ah,
oui, mais non, en effet, vu qu'ils en ont rien à faire et qu'ils se sont juste dit on va se faire un kiff sur les 20 dernières minutes de notre saison, oui, c'est sûr que ça invalide tout ce que t'as vu avant.
Est-ce que c'est pas une perte de temps, du coup? Vu que, par exemple, pour Game of Thrones, on a dit « Tout ça pour ça, j'ai perdu 8 ans de ma vie. » Et là...
Oui, mais ça, je
dis, bah, non, en fait,
les ça
serres
ont quand même existé, ça efface pas tout.
Oui, et puis il y a un autre truc, c'est que il y a re-eu ce débat autour des épisodes fillers avec She-Hulk, je trouve, qu'on avait eu à un moment, c'était avec Ted Lasso aussi, qu'on avait un peu remonté ça, et cette fois-ci, ça le refait, et en fait, je trouve que les fillers, c'est très bien. Voilà.
Ouais, mais enfin, une filler sur 9 épisodes, c'est un peu quand même.
Sauf que en fait, il faut pas penser que c'est 9 épisodes au final, voilà, il faut que tu te dises, c'est peut-être sur 3 saisons, voilà, j'en sais
rien.
Ouais,
non, ça, c'est pas possible, avec, avec Marvel, enfin.
Oui.
On sait pas, eux-mêmes ne savent pas, enfin, c'est de l'opportunisme, désolé, même s'ils font des choses bien, ça reste. Que de l'opportunisme et se dire que là on est en train de voir une série qui va s'étaler sur 3 saisons alors qu'on sait très bien que soit ils vont le passer sur grand écran malgré ce qu'ils disent dans la série, soit ça va disparaître des radars parce que X ou Y raison,
ouais.
Tu peux pas l'apprécier de la même manière. Et là où moi je rejoins Stéphane, c'est vrai que 9 épisodes pour le coup c'est quand même un peu léger,
oui,
surtout quand tu ne l'intègres pas au reste du film.
Bah, surtout qu'ils t'ont vendu un produit comme étant une comédie chez les avocats et avec des super-héros. Bon, alors super-héros t'en as, mais bon, vive les caméos toutes les 10 secondes, c'était chiant. Les avocats, on les voit au tribunal tellement peu que c'était d'une tristesse absolue. Et une comédie, rire, c'est pas ce qu'on a fait le plus devant She-Hulk, quoi. Donc.
En fait, il y avait un petit peu de tout.
Ouais. Ah oui.
Mais pour
c'est
moi,
un peu pourri, quoi.
Ouais. Pour moi, ce qui est le plus réussi, c'est vraiment, en fait, c'est le personnage de She-Hulk et la manière méta dont il le traite.
On
tout
est
ce qu'il y a autour, ça fonctionne pas.
Et puis, en plus, Tatiana Maslany, on l'avait jamais vu en comédie, si enfin, moi, j'ai pas souvenir.
Parker Breck.
Si tu considères que certains... Si, quand Allison dans Orphan Black, elle était très drôle, quoi.
Je me suis demandé si dans un épisode, il n'y avait pas Allison. Dans le dernier épisode, il diffuse une image de...
Ah si, mais carrément. C'est carrément, c'est ça. Bien
on
même,
est
oui,
d'accord.
C'est une vidéo d'Orphan Black, hein, bien sûr. Ouais.
Ça, mais j'ai même pas fait gaffe.
Quand le truc au collège... Mais c'est pas Allison, c'est Mercredi, c'est la lesbienne.
Quand
c'est
Mercredi.
Ah, mais
c'est
faut
Junior,
que je
comprends rien du tout.
J'ai beaucoup aimé ta blague, Tom.
Merci.
Mais même ce genre de petits détails, je trouve que c'est très fun et il s'amuse en effet avec la télévision et c'est ce que j'aimais bien aussi dans VandaVision.
Oui, voilà, c'est ça, ce que j'avais, c'est vrai.
Oui.
Donc,
mais voilà. C'est ce qu'il devrait faire plus dans la saison 2, s'il y a une saison 2, quoi. Mais bon, on a des doutes sur le fait qu'elle va exister.
Bah pour l'instant, on n'a aucune info, il n'y a rien du tout.
Je reste optimiste, voilà.
On n'a pas trop les scores en plus sur She-Hulk. Hein.
Bah, il n'y a jamais de score, qu'est-ce que tu racontes?
C'est juste qu'elle s'est fait défoncer par les haters en termes de notes.
Oui,
et
alors
après,
ça.
Ils ont repris la main pour virer tous les haters, et puis que voilà, mais c'est tout, après, rien de plus, quoi.
Oui, si on croit les haters, genre, je pense qu'elle est notée 1 sur 5, quoi.
Tu veux dire les masculinistes
les
incels,
Et si on croyait les haters, à qui serait prétentieuse?
Ça, on ne sait pas si c'est vrai, en revanche. Hein, bon.
On passe à un duo de production Ryan Murphy avec The Watcher et Dahmer, qui sont tous les deux sur Netflix. Est-ce que c'est pas deux séries de trop encore de Murphy? Est-ce que c'est pas encore des serial killers? Est-ce que c'est pas toujours la même série? Est-ce que Maxime, The Watcher, qu'est-ce que tu en as pensé?
Intéressant, non mais intéressant dans le sens où il y a quand même certains ingrédients qui fonctionnent. La première surprise que j'ai eue, c'est que pour une fois, je crois même que c'est la première fois, Bobby Cannavale, je l'aime bien dans un rôle.
Ah.
Et c'est vraiment la première fois et je trouve qu'il est vraiment...
T'as jamais regardé Cupid, toi?
Oh, mais... Ah, c'était sympa, Cupid, c'est vrai.
Je vais pas me faire la filmographie de tous les acteurs qui passent à l'écran, surtout quand je les
quand
aime pas.
Quand tu les aimes pas, bah oui.
Oh, crois... là.
Mais il était pas mal dans le truc de Sanctuaire avec Nicole Kidman, là, en vrai.
Ah non, mais il y a que toi qui a aimé ce truc-là, c'est pas
non,
possible.
Non, j'ai pas forcément aimé la série, mais lui était bien dedans.
Voilà, il y a Bobby Cannavale qui est très bien, il y a Naomi Watts qui est très bien, il y a Jennifer Coolidge qui est excellente, encore une fois. Donc le casting est super réussi dans la série. Là où le bas blesse, c'est l'histoire. Enfin, de toute façon, comme toujours chez Murphy, hein, l'histoire est...
Comment on peut dire ça alors que ce sont des histoires vraies?
Eh bien, parce qu'il ne sait pas écrire des histoires, peut-être.
À part celle de Glee.
En fait,
les deux saisons, oui.
L'histoire, pour la résumer, pour ceux qui n'auraient pas forcément vu la série, sans spoiler, c'est l'histoire d'une famille qui va s'installer en banlieue et il se passe des événements étranges autour de leur maison et il y a quelqu'un qui les regarde et qui se fait appeler The Watcher. Et tout au long de la saison, enfin de la mini-série, il tente de découvrir qui est cette personne, et ils sont dans un univers où tout le monde est chelou. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui va se passer pendant les 16 épisodes, et c'est uniquement ce qui va se passer. Enfin, vraiment, c'est ultra pauvre, je trouve, en termes de rebondissement, en termes d'écriture des personnages, d'écriture de l'angoisse aussi, parce que c'est un peu sur ça qu'il veut jouer. Je trouve que c'est ultra plat. Ça fonctionne très rarement, pourtant il y a vraiment un casting dingue. Il y a Margot Martindale, Sébastien Stan et plein d'autres. Voilà, il y a vraiment un super casting et ils fonctionnent tous. C'est juste vraiment l'écriture de l'histoire en elle-même qui ne fonctionne pas. Et on arrive au 7e épisode où on veut tenter de nous délivrer la vérité. On nous le fait pas parce que c'est une histoire vraie et comme tu l'as dit Stéphane, et qu'il y a toujours une inconnue sur cette histoire, mais tu te demandes en fait tout ce qui s'est passé pendant cet épisode, quel impact ça peut avoir en termes de, je sais pas, d'histoire. Vraiment c'est assez inconséquent en fait, et j'ai fini la mini-série en me disant, mais entre le premier et le septième épisode, je n'ai pas vu la différence. C'est passé comme une lettre à la poste, quoi.
Même malade, il est très pertinent, Maxime.
Merci.
Personne n'a voulu tenter The Watcher?
J'ai pas eu le temps. Hein.
Si Stéphane n'a pas eu le temps, je dirais que personne n'a eu le temps. Donc,
non, c'est voilà. Pas vrai, mais j'étais occupé toute la semaine dernière, donc j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai découvert le casting récemment, là, il y a 2 jours, et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de telles annonces?
Mais il n'y a pas eu beaucoup de pubs, en fait.
Mais je ne savais pas, moi.
Ouais, étonnamment, pour une série de Murphy. Mais comme quoi, le bouche à oreille marche bien, parce que je pense qu'elle est déjà dans le top 10 série Netflix, il me semble.
Et parce que... Ouais. Le casting, pour le coup, c'est pour, en tout cas pour tout amateur de série, tu retrouves tellement de têtes connues, de second rôle connus, que ça en devient vraiment un kiff de les voir tous ensemble, évoluer ensemble, parce que tu les as pas vus ensemble. Genre faire rencontrer Margot Martindale et Jennifer Coolidge, c'est juste trop bien.
C'est genre le jour et la nuit, quoi.
Ouais,
et c'est bien, hein, de ne pas voir Sarah Paulson dans ces séries, hein, de temps en temps.
Oui, mais du coup, elle me manque un petit peu, je l'avoue.
En fait, c'est le syndrome de Stockholm. Arrête, Aki.
Très honnêtement, pour voir ce qu'il fait de Naomi Watts et comment il exploite son talent, parce que pourtant, c'est quand même une actrice très talentueuse, tu te dis, autant rester avec Sarah Paulson et faire de la merde, au moins on est habitué.
Oh la vache.
Ça tire à balles réelles.
Alors, attendez, j'adore Sarah Paulson. J'adore Sarah Paulson.
Ah bah tu c'est te caches bien là.
Il faut qu'elle sorte de chez Murphy, parce que vraiment là, elle est en roue libre totale. C'est juste qu'il faut qu'elle sorte de chez Murphy. C'est tout.
Dahmer, qui a voulu tenter La série phénomène.
Bah, comme d'hab, comme c'est une histoire vraie de tueur en série, je ne regarde pas.
Donc, parce que tu as peur, en fait, tu es comme acquis.
Non, j'ai pas peur, mais ça m'intéresse pas. Alors, il semblerait peut-être que je sois passé à côté d'un truc parce qu'il s'intéresse enfin aux victimes et pas forcément au tueur en série lui-même et à tout ce qui peut ressortir de plus glauque et de plus malsain.
Bon, les deux, hein, les deux.
Ouais. Ah, bah, en tout cas, sur les retours, c'est le début, c'est en effet Dahmer et puis après le reste, c'est les victimes. Donc,
Ouais, mais moi j'ai.
Mais ça me fait pas envie, quoi. Ça me fait pas bander, clairement. Quand je vois un pitch comme ça, je me dis, mais en plus, il y avait. Peters, là, je me dis, oh non, pitié, le
pauvre. Ah, t'aimes pas Evan Peters ?
Si, mais je me dis, à chaque fois qu'il va chez...
Même problème.
Chez Murphy, je me dis, mais non, le pauvre, il va être aussi en roue
libre. Le Sarah Paulson de masculin.
Voilà, c'est ça, masculin, voilà, c'est ça.
Moi, j'ai fait mes devoirs, et franchement, même si on voit le côté des victimes à un moment dans la série, j'irai pas plus loin que les deux premiers épisodes.
Ah ouais ?
J'ai trouvé ça... Tu parlais de malaisant, Tom ?
Oui, alors, en utilisant le mot, évidemment, avec...
Ah, ironique.
Moi, j'ai vraiment été gêné par les deux premiers épisodes, mais ouais. Gêné pas par le fait qu'on suive un tueur en série et qu'on voit un peu comment il va tuer, comment il les construit. C'est vraiment, je n'en peux plus de ce tic de Ryan Murphy où tous les personnages LGBT ont un pet au casque. Et on explore, en tout cas, il fait comme s'il allait explorer la psyché des personnages et il allait parler du fait que assumer son homosexualité, c'est compliqué, tout machin, etc. Mais en fait, à force de faire ça dans toutes ses séries, moi, je trouve qu'il a un regard sur la sexualité qui commence à vraiment, vraiment me gêner.
On aimerait bien le voir dans l'intimité, quand même,
non.
Honnêtement.
Ouais,
beaucoup de choses.
Et je pense qu'il a pas une très bonne image de sa propre sexualité, en fait, ce monsieur, parce que vraiment, enfin, il n'y a pas une chose heureuse qui ressort de ce sujet-là chez lui. Même,
ben si, peut-être Normal People, The New Normal, c'est le seul truc à peu près sain qu'il a dû faire.
Ouais, ben voilà. Mais, et pour le coup, j'ai bien aimé cette scène. Il faut arrêter parce que ça devient ultra gênant. Je commence à le prendre extrêmement mal. De voir ce genre de série et de voir qu'en plus elle a quand même une résonance parce que Dahmer pour le coup je crois qu'ils sont numéro 1 chez Netflix, j'ai plein de potes qui m'en parlent en me disant c'est super intéressant, c'est en effet on est vraiment mal à l'aise devant la série. Mais posez-vous aussi la question de franchement, enfin en termes de, enfin sur l'homosexualité, c'est quand même ultra dérangeant. Et ouais, j'étais vraiment en colère en terminant le deuxième épisode où je trouve que c'est encore pire que le premier. Et même si on voit le point de vue des victimes derrière, je trouve que c'est pas suffisant parce que vraiment là, ça commence à devenir récurrent. Ouais. Et
non, mais c'est vrai que sur les deux premiers, c'est vrai que c'est un peu la formule est un peu répétée. Ensuite, ça change un tout petit peu. Mais c'est vrai que la thématique de la sexualité dans les séries d'Ryan Murphy, ça pourrait faire 3 heures facilement.
Hein. Ah oui.
Même une thèse.
Bah, rien que sur Nip Tuck, déjà, c'était quand même chouette.
Oui, ouais, mais encore, c'était. Tu vois, c'était des personnages hétéros.
Non, puis sur Nip Tuck, pour moi, il y a un truc de. C'est sa première série où vraiment il poussait le bouchon, le curseur très très loin.
Ouais.
Et c'était tellement poussé loin que ça posait des questions, ça cassait aussi un peu des.
C'était original, quoi.
Oui, voilà, c'est original. Là, ça fait Nip Tuck, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans ?
Quasi, ouais. Ouais.
20 ans l'année prochaine, ouais.
On est en 2022 et on en est encore là. Et moi, je trouve que cette fascination pour le meurtre, pour le glauque à travers la sexualité, c'est plus possible, franchement.
Mais je te rappelle que la saison 10 de American Horror Story... 10 ou 11 ? Tiens, j'ai un trou, mais
10.
10 à New York, ils ont pitché que ça, quoi. C'est un nouvel endroit, New York, les années 80, le sexe et l'homosexualité et les meurtres. Donc, je sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais il y a vraiment quelque chose de vraiment pas sain du tout. Hein.
Ah ouais, franchement.
Et on avait fait un Happy Hour série sur Murphy.
Ouais.
Il y a quelques années. Et je m'étais dit que déjà, à ce moment donné, ça commence à devenir problématique. Mais là, c'est pire parce que, en fait, le mec fascine tout le monde avec tout ce qui sort. Il n'y a pas un truc de sain. Et c'est là où je me pose de... Enfin, il y a toujours des gens qui le regardent et c'est des jeunes. Et je me dis qu'il y a quelque chose de vraiment très glauque dans ce qu'il propose à la vision. Maxime, il a raison. À un moment donné, la représentation, ça compte. Et là, ce qu'il représente et ce qu'il montre tout le temps et partout, ça risque de devenir problématique, vraiment.
Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est quasiment maintenant la seule... quasiment la seule représentation vraiment de personnages gays et... de casting où il y a beaucoup de personnages LGBT, c'est lui qui fait beaucoup de beaucoup dans le pourcentage de représentation. Et franchement, c'est flippant quand tu vois qu'on en vient à annuler des queer as folk, etc., mais qu'on garde des choses comme ça à l'antenne. Moi, je suis le diffuseur, enfin, je suis la chaîne ou je suis la plateforme. Je me pose des questions aussi sur ce que je véhicule aux gens.
Bah, ils s'en posent pas, c'est bien ça le problème. Bah oui.
Non, mais que ce soit Netflix ou... Bah, Netflix, ils s'en foutent parce que c'est tant que ça marche et tant que ça fait rentrer de l'argent, voilà. Lui, il s'en pose pas non plus, mais c'est-à-dire que tout le monde à côté pourrait dire quelque chose, même les acteurs qui jouent dans la série de Ryan Murphy, quoi.
Enfin, moi, non. Par exemple, une Sarah Paulson qui est quand même concernée par le sujet, je trouve que ça commence à devenir un peu flippant qu'elle continue parce que, vraiment, tu regardes la série... Enfin, n'importe quelle série de Ryan Murphy, tu te poses des questions. Enfin,
non, c'est. Mais oui, mais après, entre deux saisons d'American Horror Story, elle fait quand même des American Crime Story et elle était vraiment bien dedans, quoi. Voilà. Donc, il y a un bon filon à exploiter, quand même.
Oui, ouais, elle y est pour l'argent, quoi.
C'est pareil, Evan Peters disait que ça le fatiguait de faire des personnages dérangés et puis puis il fait un serial killer quoi. Qui d'ailleurs il est habité par le rôle, enfin c'est un truc de malade. Sinon le casting est plutôt intéressant. Il y a Richard Jenkins qui est toujours impeccable, qui joue toujours des pères de famille dans tout ce qu'il fait et c'est toujours.
Il a l'âge, non?
Oui, enfin ça fait quand même 30 ans qu'il fait ça. Donc voilà, c'est. Mais non, j'ai trouvé quand même la série plutôt intéressante, bien ficelée. Il n'y avait pas de générique, donc ça c'est une sorte de forme de série un peu étrange, parce que en fait tout se suit très bien. Il y a vraiment une ambiance qui s'installe dès le début.
Et j'ai vu beaucoup de retours sur Niecy Natch.
C'est la voisine, ouais.
Et il semblerait qu'elle soit exceptionnelle dedans. Et je me dis que, bon, vu ce qu'elle fait dans The Rookie Feds, est-ce que je n'irai pas jeter un œil à Dahmer juste pour elle, quoi.
Non. Mais il y a Molly Ringwald aussi.
Ouais. Elle joue la mère, mais c'est vraiment un troisième rôle, quoi.
Oui, enfin, en tout cas, les deux premiers épisodes que j'ai vus, c'est vraiment Evan Peters centrique. Le reste des personnages, tu ne les vois pas trop, à part le père.
Mais c'est vrai que le personnage est un peu fascinant parce qu'en fait, il tue, mais quasiment sans faire exprès à chaque fois.
Ouais, alors c'est intéressant non, ce que tu dis là, parce que toutes les réactions justement que j'ai pu lire de, on va dire, du grand public, de la masse populaire, allaient un peu dans le sens en mode « Oh mais le pauvre, franchement, il était juste dérangé, c'est pour ça qu'il tuait. » En fait, ton mental n'excuse pas tes actes, si tu veux. Enfin, pas toujours, quoi. Et là, les gens étaient vraiment pauvres Dahmer, quoi. Ouais. En mode, non, mais en fait, il est innocent. Bah, pas du tout, en fait. Il a tué, je sais pas combien de personnes.
Oui, non, mais c'est pas une excuse, c'est qu'on cherche une explication.
Il les a mangés aussi.
Oui, c'est, mais non, bref. Donc, moi, ça me trigger, on va dire, tous ces gens, enfin, toutes les séries qui créent ensuite tous les fans de Serial Killer, quoi. Ouais. Ça, je comprends pas.
Sur You, tout le monde était fasciné par Joe.
C'est pas possible, quoi.
C'est flippant, cette fascination.
Sur l'arnaqueur de je sais plus quoi.
Ah oui, l'arnaqueur. Tout ça, c'est Netflix, hein.
Absolument, Netflix.
Il crée une génération assez étrange.
Et Tom, j'ai une question sur la suite de la série. Tu dis qu'il s'intéresse aux victimes, mais de quelle manière?
Déjà, par rapport je reviens d'ailleurs au suspense, c'est-à-dire qu'il se fait arrêter très vite. Mais en fait, comme Ryan Murphy le fait assez mal, c'est à chaque fois il revient en arrière pour expliquer les choses. Et donc c'est un peu, enfin il y a une narration très très éclatée. Donc parfois on a du mal un peu à situer si c'est avant, après. Enfin c'est, on sait pas trop le cheminement de Jeffrey Dahmer. Et on suit donc les victimes, enfin chaque victime à peu de choses près, on les connaît toutes. Et ensuite il y a un peu son procès. Enfin ça suit vraiment l'après. Et après le procès, on essaie de savoir pourquoi la police n'est pas intervenue plus tôt, parce que la voisine, donc jouée par Niecy Natch, les avait appelés déjà bien avant. Ils n'étaient jamais venus. Donc il y a une question aussi de racisme, parce que voilà, c'est dans un immeuble où il y a beaucoup de gens noirs qui eux ont appelé la police, mais voilà, pareil, les victimes de Jeffrey, bah, c'est aussi des gens de couleur, donc voilà, la police n'a pas fait son travail, donc il y a un peu aussi ce côté de racisme un peu ordinaire, entre guillemets. Et,
systémique.
Ouais, et donc on suit par rapport à ça. Et puis après, c'est vrai que par rapport, là, le petit bémol, c'est par rapport au procès, on ne le suit pas vraiment, vraiment, vraiment. Ça va assez vite. Et c'est ensuite, on s'intéresse au père, on s'intéresse un peu à tout l'environnement, en fait, à tout ce qu'il a, tout ce qui a construit Jeffrey. Et aussi, bah, surtout à la voisine, parce que c'est, et aux familles, des, enfin, à ceux qui ont perdu des enfants. Et en fait, par rapport à tout leur rapport à, non pas Jeffrey, mais plutôt à la police, à ce qu'ils ont perdu. Enfin, c'est vraiment les... On s'intéresse. Le coup... Ils sont pas contre Jeffrey, tu vois, ils vont pas dire... voilà, on est juste là, on va pas chialer juste parce que c'est un tueur. C'est voilà, la perte des gens, le procès, l'efficacité de la police. Enfin, c'est plein de choses comme ça. La médiatisation, les choses comme ça.
Ok, donc vraiment, je pense que ça m'aurait pas plu jusqu'au bout parce que j'ai un peu de mal avec parfois cette posture de on essaye de regarder autour du tueur pour voir ce qui l'a constitué en tant que tueur, ce qui a fait qu'il soit passé entre les mailles du filet plutôt que le tueur en lui-même. Et je trouve que évincer ça du propos, c'est un peu, enfin, pas l'excuser, j'irai pas jusque là, mais c'est un peu ne pas vouloir regarder là où ça fait mal, quoi.
Mais non, mais c'est toujours intéressant de savoir aussi pourquoi, tu vois, un tueur devient un tueur. C'est pas non plus en l'excusant qu'on fait ça, c'est pour vraiment savoir comment ça fonctionne. C'est, enfin, tu vois, c'est, on parle même d'autres tueurs dans la série. Le père, donc Richard Jenkins, qui joue donc Lionel, lui, il s'en veut parce qu'il croit que c'est sa faute. Tu vois, il écrit un bouquin, il y a la médiatisation de son bouquin.
Tu vas me dire que pour une fois, c'est pas la faute des parents si le mec est devenu un tueur en série?
Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a un peu de tout.
Ouais, mais la première scène où on voit sa mère, elle est en train de faire une overdose.
Enfin, c'est, bah oui, c'est sûr que ça aide pas à se construire tranquillement.
Non, mais le père dit que c'est la faute de la mère parce qu'elle a pris des cachets pendant la grossesse.
C'est la faute de la mère.
Père dit que c'est de sa faute parce qu'il a donné la fascination pour les animaux morts, pour l'occuper, parce que lui, il voulait pas de
s'occuper. Ah, elle était
psychiatriste. Parce qu'il couchait avec d'autres femmes, tu vois. Son père, donc. Et ouais, puis après, bon, Jeffrey, c'est pareil, il a tué une fois, mais il était fasciné par sa sexualité, par le corps des hommes. Et donc, il essaye à chaque fois d'aller de plus en plus loin, et puis ça va à chaque fois de plus en plus mal. Donc. C'est tout un cheminement qui est assez intéressant à étudier. Après, oui, dans la forme, et ça, évidemment, la série ne peut pas être pertinente à tous les niveaux. Quoi.
Ouais, il faudrait qu'elle le soit un seul, quoi.
Et Netflix a eu la bonne, entre guillemets, idée de mettre aussi le documentaire juste après qui raconte la même histoire mais avec des images d'archives avec le vrai tueur dont les lunettes ont été adjugées à $500,000 je crois il y a très peu de temps et qui a posé un peu un problème éthique.
Bah ouais, enfin ça va avec la série quoi, c'est cette fascination.
T'as plein de clubs qui se créent en mode fanatique de ouf. Ouais.
Mais tu vois, il y a des gens qui lui ont écrit en prison. Enfin, il y a plein de gens qui écrivent à prison des serial killers et ils se sont fascinés. Il y a des groupies, tu vois.
Bah, Charles Manson, c'est le meilleur cas. Hein.
Ouais, donc, tu vois, c'est...
Et bizarrement, Ryan Murphy aussi est fasciné par les tueurs en série. Même quand c'est pas des histoires vraies, il y a toujours une histoire de tueurs en série. Et au début, je voyais ça un peu comme on explore le mal, etc. Maintenant, je pense qu'il a un problème.
Voilà. Donc, si vous voulez voir The Watcher et Dahmer, c'est sur Netflix. Rapidement, Atlanta saison 4, je crois que Maxime en regarde.
Eh bien, elle est très très bien. C'est aussi bon que la deuxième, que la troisième. Et vraiment, c'est un délice à regarder à chaque fois. On ne change pas vraiment la formule des deux précédentes saisons. Il y a toujours des stand-alone avec des choses un peu étranges qui arrivent à ces personnages. Elle est un peu plus intéressante, je dirais, en tout cas pour moi, que la saison 3 qui se passait exclusivement en Europe et qui parfois me perdait un petit peu quand elle revenait un peu à des choses basiques sur la tournée de Paperboy et tout le voyage qu'il avait en Europe. Là, on est de retour aux États-Unis, on revient dans leur vrai quotidien, il y a quelque chose de plus mélancolique, de plus intéressant, je trouve, à mon sens, et ils s'amusent toujours autant avec la forme, donc moi je trouve que non, c'est très bien, il faut regarder.
Et j'ai juste une question, mais alors complètement random peut-être, mais est-ce qu'on sent que c'est une dernière saison? Parce que quand je regarde, là j'ai regardé le dernier épisode de The Good Fight, et dans le dernier, je ne me suis pas senti concerné en me disant, tiens, c'est bientôt la fin, il reste 4 épisodes. Alors je me dis, est-ce que les scénaristes, ils écrivent déjà, ils te font ressentir que c'est une dernière saison? Alors, dans la dernière saison.
Alors, sur The Good Fight, sur le dernier épisode, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est un petit peu, on vous fait revivre ce que la série et ce que The Good Wife pouvaient faire de mieux en termes judiciaires. C'est un peu un regard en arrière sur ce qu'ils faisaient, et je pense qu'on va retourner sur la fin du monde. C'est un peu ça la thématique de The Good Fight. Et sur Atlanta, je dirais qu'on a l'impression que les personnages sont plus apaisés ou alors beaucoup plus mélancoliques et qu'ils vont arriver à un stade de leur vie où quelque chose va devoir changer. Donc peut-être que dans ce sens-là, oui, on peut voir qu'il écrit une dernière saison. Après, tant que j'ai pas vu les derniers épisodes, peu jugé. Surtout qu'il n'y a pas de... c'est pas feuilletonnant, pas vraiment feuilletonnant. On est sur des tranches de vie, on est un peu sur un modèle comme on pouvait voir avec Better Things. Et Better Things, on ne pouvait pas savoir que c'était la dernière saison avant les derniers épisodes, où là vraiment ils essayaient de conclure un peu un chapitre de vie, et je pense que là ça va être un peu la même. Donc attendre de voir la fin de la saison 4.
Je crois que c'est sur OCS.
Pas encore.
Ils sont même pas en US plus 24.
Cousin d'Amérique.
Cobra Kai saison 5 sur Netflix, qui était un peu arrivé,
ça arrive le mois prochain sur ECS, hein, voilà.
D'accord,
c'est ce que je me disais.
Cobra Kai donc saison 5, Mélanie, est-ce que c'est toujours aussi sympa?
Alors, toujours aussi sympa, je dirais oui. Cette saison, je l'ai trouvée un petit peu redondante, on est toujours sur les mêmes habitudes, les deux clubs l'un contre l'autre. Mais c'est toujours sympa, ça se regarde toujours avec plaisir, sans ennui. Et on a toujours les flashbacks des films qui sont bien intégrés à la série. Et on a même là de nouveaux personnages qui étaient intégrés au dernier épisode de la dernière saison, qui apportent vraiment un côté humoristique en plus par rapport aux dernières saisons. Je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs.
Bah moi, je me souviens d'aucun nom des personnages, en fait. C'est dire si... je regarde ça vraiment...
C'est l'implication.
Mais oui, non, mais tu vois, je regarde ça sans déplaisir, mais...
Tu avais vu les films?
Ou alors, il y a très longtemps, hein, parce qu'on est vieux, nous. Donc...
Je ne me sens pas concernée. je ne retiens jamais les noms. Il s'était battu avec lui dans le 2, je crois.
De toute façon, tout le monde à peu près revient, donc...
C'est la même mécanique, mais ça reste toujours plaisant.
Ouais,
si on a aimé les saisons précédentes...
C'est vrai que c'est un peu cette bataille de clans qui revient tout le temps. Après, c'est vrai que bon, y a des fusions de clans, il y a des méchants qui deviennent gentils, il y a des gens
qui peuvent faire autre chose.
Dans cette formule-là, ils pourraient peut-être faire autre chose que baser l'intrigue principale sur les combats. Et tu vois, ils pourraient raconter d'autres choses. Ce qu'ils pouvaient faire à quelques épisodes, voilà, on sentait qu'il y avait des personnages qui pouvaient se construire et évoluer. Moi, ce qui m'avait gêné au début, c'était que la série prônait quand même la violence comme seule solution. Et il n'y avait pas vraiment de second degré par rapport à ça. Même si la série était un peu légère, il n'y avait pas trop de recul par rapport à la violence. Et bon, là, ça s'est un peu apaisé. Parce qu'évidemment, tout le monde s'est pris des coups, donc ils commencent à relativiser. Mais
La Rousseau de base n'est pas sur le l'équipe La Rousseau n'est pas sur la dynamique de toujours aller par la violence. C'est le dernier rempart.
Tu vois le titre de la série, c'est l'équipe des méchants, tu vois. Donc tu te disais c'était intéressant de prendre le méchant d'origine, d'en faire la vedette. Après bon, ça s'est équilibré de plus en plus. Mais là c'est vrai que j'ai du mal à continuer la saison parce que les personnages commencent un peu à tourner en rond, même si on sent une petite évolution, mais
dans sa vie personnelle a évolué.
Il commence, il est quand même attachant, mais c'est pas non plus.
Est-ce que ça n'a pas duré trop longtemps en fait?
Après c'est des saisons courtes, hein, tu vois, c'est.
Ils
vont faire un film là.
Là, ils ont un peu tout bouclé. Franchement, je vois pas ce qu'ils vont faire ensuite.
À part un nouveau méchant encore, mais.
Méchant, parce que là tout est bouclé. Hein.
Donc là, ils vont faire un film. Alors, je ne sais pas si c'est l'univers entier. Est-ce que c'est lié au film, lié à la série, ça va être un peu difficile, mais ouais, c'est plaisant, c'est bien fait, c'est voilà, c'est des petits épisodes pas trop longs, le casting est sympa. Et surtout que pour ceux qui n'ont pas vu les films, les flashbacks en fait s'intègrent très bien.
Tu peux ça te dire,
franchement, tu dis, ça apporte beaucoup quoi. Et non, voilà, c'est une série qui a quand même beaucoup de succès sur Netflix. Donc...
Et puis qui n'a pas commencé sur Netflix surtout.
Oui, oui, c'était sur YouTube.
Ouais, ouais, et deux premières saisons, c'était sur YouTube, donc c'était vraiment pas un grand.
Et on
ne
sent
public,
pas trop de différence hein, d'ailleurs entre les deux premières et les suivantes.
Tu veux dire qu'ils n'ont pas injecté d'argent ?
Bon, un petit peu peut-être, hein, peut-être au niveau casting, mais voilà. Mais les combats sont très bien hein, pour des petits jeunes, ils se débrouillent très bien. Donc voilà. Voilà, c'est saison 5 sur Netflix. Ça n'a pas fait grand bruit là, cette saison, mais je pense que les gens commencent à être lassés, hein, ce qui est un peu évident aussi. Quoi. Donc c'est sur Netflix. Stéphane, ta série préférée, La Brea ?
Oh putain.
Saison 2. Eh oui, on l'attendait.
Ouais, c'est vrai.
Alors bientôt
on
sur
avait
TF1.
Des espoirs.
Hein.
Oui,
la série événement.
Avait... Oui, bouf, mon Dieu. On avait de l'espoir. Un tout petit peu d'espoir après la fin de la saison 1 qui, quand même,
nous a fait revenir.
Voilà. Elle nous a fait revenir, comme tu dis. Sauf que les premiers épisodes de la saison 2 m'ont fait fuir. Et c'est La Brea et moi, c'est définitivement fini. Je l'ai jeté au fond du trou. Et,
jusqu'à la prochaine.
Non, clairement pas. À moins que tu continues à regarder la série, ils me disent à un moment donné vas-y, Stéphane, c'est devenu super et tout machin. Non, je ne reviendrai pas.
Mais c'est vrai que le premier, tu peux te dire, bon, ils vont ouvrir des perspectives intéressantes.
Mais non.
Alors, ça ouvre, ça entre-ouvre, mais après, dès l'épisode 2, tu dis, ok, ils savent qu'ils ont été renouvelés, que ça marche bien, que ça peut durer des plombes, donc ils vont étirer le propos, ils vont pas faire avancer, parce que la saison 1, quand même, faisait avancer beaucoup
de choses. T'es gentil en disant le propos, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de propos.
Bah, le propos, là, c'est une guerre de clans à la The End Road, qui n'est pas non plus l'idée la plus excitante de la série. Mais peut-être ce qui se passe en 88 peut être intéressant, mais ils l'oublient déjà dans...
Ah, super.
Bah oui, ils font maintenant des épisodes comme Lost où d'un côté, ils vont passer un épisode avec 2-3 personnages et oublier les autres. Quoi. Ça
alors par contre, parallèle. C'est vrai qu'ils rajoutent, ils ont énormément de personnages, mais ils ne savent
et
pas les gérer.
Pas très
ils ne savent pas les écrire. Et ils ne savent pas jouer. Et ils ne savent pas les filmer. Bon, enfin, voilà quoi.
Et donc voilà, c'est pas...
Non, c'est accident industriel, quoi.
Oh non, je dirais pas ça.
Ah si, ah non, c'était déjà très mauvais en saison 1. Oui. Je sais pas pourquoi ça a marché, mais alors la saison 2, c'est une catastrophe ambulante, quoi. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi.
Est-ce que tu penses que ça va marcher sur TF1 ?
Honnêtement, j'espère que non, mais ça, c'est juste pour le plaisir de voir TF1 se vautrer. Mais le problème, c'est que oui, ça peut marcher, quoi. Mais pas, ça va pas être mirobolant, mais quoi.
Peut-être en binge, peut 3 épisodes par soir, les gens vont peut-être accrocher.
Ouais, ouais. Bon, sachant qu'en plus, la saison 1 est assez courte, hein, il y a que 10 épisodes. Hein,
ah oui, en plus, ouais, oui. Donc même si ça marche pas, ils iront. Ouais, en 3
soirées.
Ouais,
c'est fait.
Bon, donc c'est bientôt sur TF1 pour la saison 1. Grey's Anatomy, saison 19, si je me trompe pas.
Oui.
Qui veut se lancer sur
ce
soft reboot ?
Pas moi, mais me spoiler pas, s'il vous plaît. Ah. Merci.
En même temps, il n'y a pas grand.
Ouais, grave.
Mais ils disent qu'il y a un renouveau, alors moi je l'attends.
Donc,
ce
renouveau. Nouveaux internes,
nouveau reboot
temps,
sans reboot, quoi.
Ouais. Mais c'est ce qu'ils appellent le soft reboot.
Voilà. Et j'ai vu la coiffure de machin, là, comment il s'appelle Speedman, là, Scott Speedman. Elle est horrible, cette coiffure.
Bah, il est comme ça depuis un moment. Hein.
C'est sa vraie tête, d'accord.
Oui. Non, mais à qui ce soft reboot Ils l'ont déjà fait, en fait, il y a quelques années, et ça n'avait pas fonctionné. Et ça...
Ouais, mais je trouve que le casting est meilleur que la dernière fois.
Oui, là, il y a déjà du fandom derrière les acteurs, en fait.
Harry Shum Jr., c'est ça, c'est toi
Non, mais même Adelaide Kane, je l'aime bien, tu vois.
Ah, Adelaide.
Et j'aime bien aussi la petite Asiate, l'autre Asiate, pas Harry Shum Jr., du coup, mais j'ai oublié son nom.
Ah oui, moi aussi, tiens.
Enfin, celle de Dashen Lily, quoi.
Non, en fait,
oui, oui moi aussi, ouais, elle aussi. Pourquoi non, mais le nouveau casting, je le trouve plus attachant que Goat. J'ai retenu aucun prénom quoi, de l'ancienne équipe. Tandis que au bout d'un épisode, déjà, je me.
Ouais, moi, j'ai pas...
Je vois bien qui est qui, quoi.
J'ai pas nécessairement d'attache aux personnages. Après, je suis pas contre parce que c'est un peu l'ADN de Grey's Anatomy aussi d'introduire régulièrement des nouveaux personnages et de renouveler un peu le casting. Donc, ça me dérange pas en soi. Les personnages, en effet, sont pas désagréables. C'est juste que. Au global, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ils s'assoient un petit peu sur ce qu'ils ont fait la saison dernière, ou sur le Covid, ou sur, enfin voilà, sur tous les développements intéressants qu'ils pouvaient amener à la série.
Mais ça, j'imagine que c'est le départ plus ou moins de Pompeo qui les ont obligés à innover et à réécrire la plupart des choses alors qu'ils avaient lancé des pistes bien claires pour la suite. Et là, ils se retrouvent avec rien.
Oui, ouais. Clairement.
Et c'est vrai que c'est dommage parce que moi, je trouve que la série est jamais aussi bonne que quand elle parle vraiment
du cœur.
De l'hôpital et de comment il fonctionne et de comment le système fonctionne.
Oula, et ça fait un moment que ça a arrêté de faire ça.
Bah ouais, ça c'est New Amsterdam si tu veux, c'est plus vraiment Grey's Anatomy. Non.
Pas la New Amsterdam, pas dans ce sens-là, mais par exemple la saison où il parlait du rachat de l'hôpital suite au.
Oui, mais ça fait 9 ans, hein. C'est la saison 10 ou 11.
On est d'accord, mais parfois ils arrivaient à trouver des sujets plus.
T'as un ou deux épisodes qui gardent comme ça à chaque chose. Mais c'est pas le principal de Grey's Anatomy maintenant.
Par exemple, la question des assurances quand
oui, Meredith, elle a fait des trucs pas nets.
Voilà, il y a ça, c'est arrivé aussi à Alex. Il y a ponctuellement des sujets intéressants qu'ils ont complètement évincés.
Oui, et le problème, je crois que c'est d'avoir gardé encore Weber et Miranda. Bon, alors, j'aime beaucoup Miranda.
Le mec ne prendra jamais sa retraite.
Voilà, c'est ça. Mais sauf qu'à un moment donné, ça fonctionne plus, quoi.
Oui.
On aurait dû avoir du sang frais de ce côté-là en termes de vieux. Hein, avec un
sauf que la réalité, les vieux, ils s'accrochent.
Hein. Non, c'est bête à dire. Non, mais d'accord, le mec, il a failli mourir 6 fois, il n'est pas mort. C'est des docteurs, ils ne savaient même pas que... Putain, on savait tous qu'il avait son métal qui rouillait dans la jambe et c'est pour ça qu'il délirait. Enfin, tout le monde le savait, ils ne se sont même pas rendus compte.
Non,
enfin,
mais même, pas, ils prenaient sa retraite urgence, au pilote. Ça, ils prenaient sa retraite au pilote. On est 20 ans après.
C'est vrai.
C'est pas possible.
Non, mais en fait, ils ont introduit des jeunes, ok, super, mais sauf qu'ils ont gardé les mêmes vieux, et en fait, ils sont épuisés, quoi, au bout de 19 ans, donc ça n'a pas forcément d'intérêt.
Est-ce qu'il y a une nouvelle Meredith dans le lot des nouvelles ?
Non. Mais par contre, il y a un nouveau Shepard.
Laisse parler les gens, Stéphane.
Mais on s'en fout, parce que c'est débile ce qu'ils ont fait.
Mais tu l'avais vu venir, le truc ?
Mais non, mais c'est débile.
Attends, déjà, n'en dis pas plus, parce que le nouveau Shepard, dans quel sens, ce sont des internes. Ça peut pas être un nouveau Shepard, en fait.
Oui,
calmez-vous. C'est pour ça, dis rien.
Donc, c'est plutôt un nouveau Meredith.
Non, mais tu verras.
Ok, très bien.
C'est pour ça que je t'ai dit okay. Chute.
Okay. Mais tu sais que même la semaine dernière, quand les gens ils ont vu ça, les fans sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé ça débile. Mais
je vais
demander
à mon cousin de me l'envoyer tout de suite.
Est-ce qu'il y a une porte de sortie qui s'ouvre pour Meredith ?
Ben non, c'est ça le pire.
Ouais. Son épisode de sortie, c'était la fin de saison à partir avec...
En fait, pour moi, le problème du positionnement de Meredith aujourd'hui et de ce que Stéphane vient de dire sur Richard et Miranda, c'est qu'ils renouvellent les mêmes thématiques sur différents personnages. À un moment, Miranda était la nouvelle Richard et maintenant, Meredith est la nouvelle Miranda. Et du coup, ça fonctionne plus parce que tout ce qui devait être dit sur ce type de situation, ce type de personnage, ce truc de tutorat, etc., ça a déjà été dit. Et,
mais oui.
Et ils veulent encore creuser ça. Non, ça ne fonctionne
pas.
Il faut une autre position.
Par contre, contrairement à ce qui a été fait avant, cette fois-ci, ils insistent vraiment et ils nous refont plus ou moins les mêmes scènes que dans le premier épisode, les premières saisons de Grey's Anatomy, quoi.
Là, il y a plusieurs scènes du pilote dans le
premier. Ah oui, il y a même plusieurs intrigues. Enfin, même plusieurs intrigues du pilote.
Ouais, mais
enfin,
c'est volontaire, ils l'ont dit. Ils ont même
fait des... Oui, mais c'est débile.
Pourquoi c'est débile ?
Mais soit ils auraient terminé là-dessus, ça aurait eu du sens parce que la boucle est bouclée, mais recommencer un nouveau cycle en faisant exactement les mêmes choses, c'est un peu compliqué quand même.
C'est pas les mêmes gens qu'il y a 20 ans, donc ils s'en foutent. Hein.
Ouais,
public, hein,
on est tous autour de la table, on regarde au bout de 19 ans et on est tous fatigués parce qu'on voit les mêmes choses. Je sais pas, enfin.
Si tu sais pas.
Mais non, mais enfin.
Ah oui, ne s'assiste pas.
Oui, Oui, mais voilà, ok. Voilà. Je me coupe mon micro.
Ah, merci.
Ah, c'est mieux. Alors Grey's Anatomy, c'est sur je ne sais pas où, c'est nulle part.
C'est sur TF1.
C'est pas sur Salto en US plus 24.
Non.
Et on termine par La Reine Serpent Queen sur Lionsgate Plus. Qui a vu ?
Anciennement Stars Play.
Et sur dispo sur MyCanal et peut-être Prime, je crois. Lionsgate Plus, dispo partout. Qui a vu, Maxime ?
C'est l'histoire de Catherine de Médicis et de sa légende noire. C'est un peu comme ça que tous les historiens l'ont vu. Bon, après, c'est un personnage qui m'intéresse un peu. J'ai lu beaucoup de choses dessus, donc ça, j'étais content de voir une série sur elle. Et c'est un peu, voilà, sa légende de manipulatrice, d'empoisonneuse, etc. Alors que c'est pas vraiment ce qui s'est passé dans la réalité. Bref.
C'est vrai ?
C'est
décevant.
Un peu quand même, non ?
Bah ouais, moi j'aurais misé quand même qu'il y avait une grosse part de vérité. Quoi.
C'est possible, mais en soi, les sources de l'époque.
C'est romancé, quoi.
Bah, c'est à la The Great, en fait. Ils ont un peu pris le ton de The Great, je trouve, pour cette série. Et moi, j'ai vécu les deux premiers pour le coup, mais j'ai pas vu la suite, mais je la finirai. Bon. Mais je trouve qu'elle s'en sort très bien, machin Morton, Samantha Morton. Et on dirait pas parce que. Je l'aurais pas vu en reine en fait, mais elle a quand même quelque chose de très régalien, voilà.
Ouais, puis moi je trouve que la série se suit très bien. Il y a 6 épisodes pour le moment, c'est ça ?
Ouais. Bah, je sais pas du coup.
Et au 6e épisode, on n'est pas lassé des manigances de ce qu'elle fait, de ce qui se passe pour elle, parce que justement ils ont réussi à bien construire leur série, à l'étaler sur toute la durée du règne, et à montrer comment elle en est arrivée aussi à être cette manipulatrice et à essayer de survivre en fait dans un environnement qui ne voulait pas d'elle. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Après, ce qui est un peu dommage, c'est les autres personnages qui sont pas très très poussés, mais il y a aussi un petit côté camp que j'aime bien avec Ludivine Sagné en Diane de Poitiers. Et moi, je trouve que c'est... Ah ouais, j'ai beaucoup de plaisir à aller voir se tirer la bourre, en fait. Enfin, c'est assez...
On voit qu'elle s'amuse. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde s'amuse et qu'en fait, tout le monde est content d'être là. Et ouais. Ça fait plaisir à voir.
Pour la petite histoire, ils ont tourné à Nice. Enfin, après, dans le sud de la France, une bonne partie de la série. Voilà.
Et il faut aussi parler de Catherine de Médicis, mais jeune, qui est l'actrice, était excellente.
Mmh. C'est vrai.
Vraiment, c'est pour une fois qu'une ado, enfant-ado, arrive vraiment à captiver autant que l'actrice principale, entre guillemets, chapeau.
Bravo. Eh bien, on va terminer là-dessus, sauf si quelqu'un a un coup de gueule ou un coup de cœur rapide. Vous avez 5 secondes.
En rapport avec les séries ?
Non, avec la bouffe, peut-être un restaurant à conseiller à qui ?
Non, mais j'ai bu de la Quézac récemment et je peux vous dire que les bulles ne restent pas aussi longtemps qu'une Sainte Pellegrino, voilà, ou une Perrier. Merci.
Oh putain.
Voilà.
Bah, si on peut être sponsorisé par Sampé, pourquoi pas ? Merci à tous, Maxime, soigne-toi bien. De toute façon, merci. On va enchaîner avec un autre enregistrement, donc tu auras pas le temps de te soigner.
Je suis malade depuis 2 semaines.
Merci Mélanie, merci Maxime, merci. Alors, c'est quoi ton nom, Stéphane, sur le...
Lord Sauron.
Bah, ok, super, spoiler. Et merci à qui ? À bientôt.
Merci Tom, bye.
Au revoir.